Donc, on avait dit qu'on voulait vous parler des éditions Nobro. On va le faire. Alors, les éditions Nobro, donc c'est des éditions basées à Londres depuis 2008, pour faire bref. Pourquoi on vous en parle? Parce qu'en effet, ça existe depuis 3 ans, mais tout simplement parce que leurs bouquins commencent à arriver dans nos librairies et que nous avons décidé d'en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très bien. Alors Nico a eu l'occasion de leur poser 2-3 questions par mail et on va d'abord commencer par ça, puis on parlera un peu des bouquins.
Oui, tout à fait. Alors j'ai écrit donc à Alex Spiro, un des cofondateurs des éditions Nobro, qui, pour lui poser quelques questions sur ses ouvrages, parce que ce sont vraiment des faiseurs de livres, ils ne s'en cachent pas, ils veulent faire effectivement des beaux objets, chaque fois un objet qui correspond particulièrement au récit, à l'auteur, ou de faire des collections qui sont assez belles. Donc les objets sont vraiment imprimés dans un grand luxe, avec un soin.
Et en Belgique.
Et imprimé en Belgique d'ailleurs, selon le système du Full Spot Color. Je ne sais pas la traduction exacte, mais qui est une sorte de travail de la couleur à l'impression qui est particulier, qui donc évite d'utiliser que 4 couleurs, les 4 couleurs fondamentales, mais de jouer avec les mélanges directement pour pouvoir faire de superbes aplats colorés sans spot. Ils font ces ouvrages et Alex Spiro m'expliquer qu'ils veulent offrir quelque chose de neuf dans le monde d'édition, à savoir encourager des personnes qui seraient extérieures à l'univers de la bande dessinée, comme des artistes issus de l'animation ou de l'illustration, et de les pousser à découvrir, à travailler dans le médium de la narration graphique, de la bande dessinée, avec effectivement l'espoir que ces artistes qui ne sont pas familiers avec les codes de la bande dessinée puissent offrir de nouvelles perspectives, ou en tout cas raconter les choses avec beaucoup plus de liberté que quelqu'un qui aurait grandi toute sa vie dans une certaine école ou dans une certaine vision de la bande dessinée, de ce qu'elle peut offrir, et d'offrir, par exemple, on aura parlé ici de Debbie Drexler ou Miriam Katyn, qui sont des exemples d'auteurs américains qui ont d'un coup travaillé le médium BD sans avoir presque jamais lu de bande dessinée, et offrir quelque chose de très neuf et de très déroutant, parce que effectivement ils prennent des libertés là où d'autres auteurs pensent qu'il faut toujours faire une case après l'autre et puis le texte au-dessus, etc., où il y a un code.
Presque le cas aussi de notre invité, on aura peut-être l'occasion d'en parler avec lui, mais Nilso, qui n'a pas une formation d'auteur de bande dessinée, qui lui aussi s'est formé sur le tas, et voilà.
Mais tout à fait, effectivement, et donc il y a cette volonté effectivement pour eux de travailler avec des gens qui ne sont pas issus de la bande dessinée pour leur faire découvrir la bande dessinée. Et il veut...
Cela dit, ils ont une culture de l'image qui est assez importante.
Oui, ils ont une culture de l'image, mais ce qui est intéressant, et je crois qu'on on reviendra là-dessus, une culture de l'image, mais avec effectivement un traitement de la narration assez particulier. Et donc il veut briser les frontières de deux façons. D'abord les frontières arbitraires de la bande dessinée, en essayant de voir si on peut proposer autre chose, si des gens venus de tout horizon peuvent proposer des choses, et briser les frontières internationales, tout simplement, puisque même s'ils sont basés à Londres, ils se considèrent comme une maison d'édition internationale. Ils font venir des gens talentueux des 4 coins du monde pour participer, soit à la revue Nobro, qui est une revue, un collectif d'illustration qui va devenir maintenant un collectif mi-illustration, mi-bande dessinée, donc de travailler avec eux. Donc il y a vraiment cette volonté de venir d'un peu partout, et effectivement d'arrêter de penser à la bande dessinée comme étant quelque chose de cloisonné. Ils trouvent effectivement que c'est quelque chose, comme je disais, d'arbitraire, et qu'ils considèrent que en fait il faut arrêter de penser à réfléchir qu'est-ce qu'une BD ou qu'est-ce qui n'est pas une bande dessinée, juste faire exister des choses, mélanger avec d'autres arts, avec d'autres formes d'expression, et de créer des médiums mixtes, un peu comme en parlait J.C. Menu dans sa thèse « La bande dessinée et son double », et qu'il veut faire au travers, lui, de sa structure éditoriale de l'Apocalypse, de faire un décloisonnement de la bande dessinée par rapport aux autres arts, objectif également de Autour du paysage, qui s'annonce très bientôt dans cette émission-ci.
Après
cette page de pub. Et ils sont effectivement graphiquement dans quelque chose, donc un des auteurs présents chez eux est Blex Bolex, et on est vraiment dans ce travail-là, dans cette logique-là, avec quelque chose aussi de très vintage, qu'ils considèrent comme, ils considèrent avoir une esthétique vintage, mais qui pour Alex Spiro est liée à la technique d'impression utilisée, puisque c'était une technique d'impression qui était fréquente dans les années 50 et 60, qui donne un certain effet, cet effet vieilli un peu, où effectivement tout a l'air en demi-teinte, où il y a un côté ultra rétro, qui pour lui est lié à cette technique d'impression qui est ultra rare, qui sont parmi les seuls à l'utiliser, m'a-t-il dit, et qui donne cet aspect-là, mais effectivement, qui est une grosse, grosse influence aussi. Il faut savoir que Nobro est à la fois un éditeur, à la fois une librairie, à la fois une galerie à Londres, et à la fois un producteur de sérigraphie. Et on sent aussi très fort le rapport, l'influence des techniques de la sérigraphie, oui, des
aplats. La séparation de couleurs.
La séparation de couleurs qui est vraiment... on pourra, comme on parlait, Berthe parlait de Isinori là tantôt, on est aussi dans cette logique du travail d'Isinori, parce qu'il y a vraiment des filiations.
Isinori et des Strasbourgeois en général, en fait.
Oui, Isinori et des Strasbourgeois.
Je trouve ça flagrant, général. On parlera tout à l'heure de Central Vapeur, mais oui. Pour moi, il y a une...
Et donc, il y a ce côté-là, et effectivement, ils offrent des bouquins très très beaux, des histoires, une collection avec des albums de 24 pages, qui sont très bien réalisés, des histoires assez, généralement assez fortes, qui jouent fort sur le graphisme, et comme on en avait parlé lors de la réunion, je trouve qu'il y a, ce côté, ces couleurs qui ont l'air un peu passées, donnent l'impression que tout est raconté au passé. Donc d'un point de vue, Sami Arkam expliquait que lui, dans son Pour Sailor, il utilisait des couleurs passées pour donner l'impression qu'il y a un narrateur extérieur qui nous raconte cette histoire dans un temps, au temps imparfait, par exemple. Et d'un côté, on a un côté graphique qui est très fort, c'est principalement des illustrateurs et des graphistes, mais quand ils racontent leur histoire, quand ils font de la bande dessinée, avec cet effet de couleur, je trouve que d'un coup, la narration reprend le dessus. On a vraiment l'impression qu'il y a un narrateur qui nous raconte une histoire et que ça compense bien ce côté très graphique d'un côté, avec la couleur qui ramène à quelque chose de très narratif.
Bah, les histoires sont quand même en général bien tendues et bien pêchues. Il y en a même où tu te marres bien. Enfin, c'est pas juste une série d'images complaisantes. C'est pas juste, on est dans des super beaux objets, puis en fin de compte, le récit tient pas la route. Enfin, même dans le... Je sais pas, il y a 24 auteurs dans Cosmogonie. Il y a quasiment rien acheté, quoi.
Oui, tout à fait. Moi, je trouve aussi que sur 24 auteurs, il y a deux histoires qui ont dû pas me plaire. Ouais.
Et alors, en plus, sur une thématique, parce que c'est sur la création, on aurait pu être dans des récits redondants, mais pas du tout. Donc,
oui. Il y a 24 auteurs, tous ont une patte graphique indéniable. Il y a la plupart, je ne sais pas d'où ils sortent, que j'ai jamais vu de ma vie, où je me dis, mais d'où sortent ces gens qui nous font cette page ultra bien foutue, avec des idées assez géniales pour la plupart, parce qu'il y en a un, c'est où Dieu est à l'école avec toutes les divinités, qui est grandiose.
Il faut le dire, on n'est pas content, on voudrait pousser un vrai coup de gueule, parce que là, on se rend compte qu'il y a plus de 20 auteurs qui sortent de nulle part, qu'on ne connaissait pas, et on n'est pas content parce que personne ne nous en a jamais parlé. Donc, on pensait être un peu à la pointe, à la page, connaître beaucoup de choses. Déjà avec Isabelle Pralong, on se prend une sorte de claque, un peu une découverte, et là, c'est encore pire, toute une série de gens, toute une sorte de génération vraiment spontanée qui pousse en Angleterre, personne ne nous dit rien. Et donc voilà, mais donc c'était vraiment l'occasion du coup de...
Dans la plupart des récits, il y a des moments où, pouf, il y a des trouvailles qui te tombent dessus, que ce soit des trouvailles graphiques ou scénaristiques. Et à un moment, tu souris, tu fais « Ah, c'est génial !»
Ouais, je pense que c'est l'effet, comme il le cherche, c'est cet effet, cette volonté de s'adresser à des gens qui ne fonctionnent pas selon les codes BD. Et du coup, ils ont des libertés que la plupart des auteurs ne prennent plus ou ne se posent plus. Mmh. C'est de dire « Voilà, on y va et on y va au culot. » Et où, effectivement, il y a des choses absolument surprenantes. Et pour le signaler quand même, c'est, je crois, un des seuls éditeurs à ma connaissance qui va s'auto-éditer en français, c'est-à-dire qu'ils vont lancer eux-mêmes les traductions de leurs albums et les publier, donc ce sera toujours Nobro, mais publier en français et distribuer en France, ce qui est aussi assez intéressant d'un éditeur qui décide de ne pas, qui garde effectivement ce contrôle, comme on parlait avec Zach Sally, de garder le contrôle de leurs bouquins, de leurs ouvrages. Ils veulent garder ces livres et les faire à leur manière. Et ils vont effectivement proposer des versions en français, mais qu'ils auront fait eux-mêmes, traduit. Et...
assez symptomatique d'ailleurs, par exemple, de quelqu'un comme Chris Ware, qui a aussi toujours été très au taquet par rapport à la publication de ses bouquins, allant en Chine voir les bons à tirer, houspillant Jean-Christophe Menu, qui est pourtant pas un Jean Foutre, pour que la version française de son Kimby soit exactement comme il la veut. Donc on a là des personnes qui sont en effet très fortes dans le contrôle.
Ils le disent clairement sur leur site, hein. Ils disent qu'ils produisent leurs livres de manière locale pour pouvoir surveiller, donc ça paraît logique, ils vont pas aller faire traduire leurs bouquins avec des éditeurs qui vont imprimer ça je sais pas où.
Après local c'est à Gand, mais bon voilà, moi je me pose la question des moyens aussi, mais tant mieux, ils en ont manifestement beaucoup quand même pour proposer
sans
tout
être des
ça.
Bouquins trop chers, ce qui est...
Parlons peut-être rapidement, on peut faire un bon gros tour de table, mais on peut faire ça différemment aussi. Parlons peut-être juste de quelques bouquins qui vous ont marqué pour qu'on soit plus concret.
Citons d'abord, on l'a déjà évoqué, Agraphic Cosmogonie, qui est donc un collectif de 24 auteurs. Chacun y a produit 7 planches dans un style différent, racontant donc une création du monde, du tout, en fait, disent-ils, la création à propos de tout, et qui est brillante, en effet. Il n'y a quasiment rien acheté. Il y a des boulots qui sont vraiment assez incroyables. Et on a une forme de cohérence globale qui émerge aussi, donc on a une espèce de génération spontanée, pour reprendre ce terme à la con, mais qui est là, et qui là est relativement réelle, et donc c'est parce que c'est des gens qu'on ne connaît de manière égale pas, et avec des boulots qui sont d'égale puissance quasiment, et avec une cohérence graphique quand même, donc des couleurs relativement fortes, l'utilisation de la couleur pour structurer les récits, beaucoup de choses qui sont en dehors de la ligne claire, et donc voilà.
Alors Johanna, un ou deux trucs à...
Le livre qu'évoque Stéphane, moi je l'ai adoré. Sinon j'aime beaucoup leur série souple, les petits...
leurs 24 pages.
Voilà, c'est un peu leurs 24 pages. Dis-moi. Alors c'est plein d'auteurs différents, donc c'est vraiment à chaque fois des univers et des récits complètement différents. J'aime beaucoup le soin, quoi. On ouvre, petit rabat, imprimé à l'intérieur, pleine page. J'ai remarqué qu'ils avaient quand même un goût pour la pleine page... Donc toute cette série-là, la première page, c'est une pleine page. Pouf, tu te plonges dans le récit. Et alors, que ce soit Ouroboros de Ben Yuan, j'ai adoré, ça m'a un peu fait penser à Bulu, sauf que c'est plus géométrique, mais c'est un peu le même esprit. Et en fait, après, j'ai commencé à lire tous ceux que j'avais sous la main, et je les ai tous beaucoup aimés. Il y en a un avec un personnage, Woodman, qu'on retrouve aussi dans Cosmogonie, qui est un espèce de personnage très bizarre, silencieux, comme ça, qui s'incruste. Enfin, pour moi, c'est vraiment... une petite série à collectionner.
Vincent.
Moi, j'ai lu deux BD de la série 17x23, donc les petits 24 pages. Et j'étais surpris aussi, je vous écoutais parler de la couleur, et je les ai feuilletés à nouveau et de me rendre compte que la couleur fonctionne. Du coup, les deux volumes se ressemblent et les histoires sont très très différentes. Il y a une histoire d'un gars qui cherche du boulot et qui est payé pour ramener le crâne de la créature mi-bête. Et l'autre qui est obsolète et qui c'est une histoire de vétérans de la guerre qui font un braquage qui se passe mal. Et les couleurs, du coup, se ressemblent de leur côté passé. Pourtant, elles fonctionnent dans les deux cas, alors que les styles visuels sont extrêmement différents, sont vraiment presque opposés. Et j'ai trouvé ça très, très impressionnant. Et aussi le fait que ce soit aussi court, ramassé presque. On aurait voulu que ce soit un peu plus développé, mais ça fonctionne très bien comme ça. Et alors, rapidement, le Everything We Miss de Luke Pearson. De nouveau, un style visuel très, très différent des autres et un récit que j'ai trouvé superbe de sensibilité, de nostalgie, d'émotion, en fait. Tout simplement avec un style visuel, lui, beaucoup plus simple. Bah, pas du tout dans les esbroufes non plus, des couleurs orange, pratiquement juste orange.
Ouais, orange et noir. Bon, on a tout à l'heure, Johanna disait que c'était très péchu au niveau des récits, mais en fait, il y a beaucoup de trucs qui sont du côté de la nostalgie. Bon, on peut avoir une nostalgie assez péchu. Hein. J'ai lu aussi les deux John McNaught, dont il y a deux récits qui sont Birch Close et Pedal Island, qui sont des récits très contemplatifs dans lesquels il n'y a pas de paroles, juste de temps en temps des onomatopées, des choses comme ça.
Très mélancolique, oui.
Très très mélancolique, en bichromie, des choses extrêmement maîtrisées au niveau de la bichro, de l'installation sur la page, des choses comme ça, étonnant. Et alors moi je voulais signaler le Forming volume 1 de, j'ai oublié de noter l'auteur, qui est une histoire assez ambitieuse, complètement barrée sur la création du monde, mais qui revisite un peu des mythologies catholiques, païennes, un peu dans tous les sens, avec un dessin qu'il faut parfois penser à Alex de Motté quand il est au meilleur de sa forme.
Alex de Motté.
Donc, et ça part vraiment dans tous les sens, très, très ambitieux. On a le côté un peu jouissif qu'on a pu trouver dans Lapin et les carreaux de Patagonie. On en parlait dans le début des années 90, cette espèce de claque étrange, ce truc mal foutu, mais qui en même temps embrasse la science-fiction, le polar et d'autres styles, comme ça l'appelle. On a ça ici, cette espèce, avec une espèce de liberté d'en plus attaquer le religieux et de faire quelque chose autour de ça. Je trouve ça assez, assez poignant, grand bouquin, gros bouquin. C'est en plus la partie 1, donc il va encore continuer au-delà de ça. On se dit, putain, comment il va réussir à encore tenir le rythme, parce que exactement comme dans Lapinot, les cœurs de Patagonie, il fait intervenir un nouveau personnage toutes les 5 pages. Donc on a, l'histoire se complexifie plus le récit avance, mais en même temps avec une cohérence, des retournements, on revient sur des personnages, ils ont grandi et maintenant ils ont changé, ils ont d'autres pouvoirs encore, etc. Histoire tout à fait étonnante et vraiment dépotente.
Et puis là, on est dans un livre grand format, rose fluo, couverture.
Encore,
super pêchée,
encore une autre forme et tout ça. Donc, il y a ça aussi. Il y a une diversité des formats entre la petite collection 24 dont on vous a parlé, ouais. Les deux John McNaught qui ont un format eux-mêmes différent, mais qui sont du cartonné. Entre le forming, il y a vraiment.
Mais rien n'est laissé
choses.
Au hasard. Tout est hyper abouti au niveau de l'objet, quoi.
Donc ouais. C'est assez écœurant. C'est surprenant. Donc, voilà, on va se réécouter un peu de musique. C'est le premier choix de Nilso, juste pour vous dire qu'il est bientôt parmi nous, d'ici une vingtaine de minutes plus ou moins. On va écouter Military Madness de Graham Nash. Il devra se justifier de tous ses choix au micro, mais ça c'est quand il sera parmi nous. Voilà, de retour avec ce premier choix de Nilso et Marie, qu'on va accueillir d'ici peu de temps. Stéphane arrive, Nilso et Marie vont nous rejoindre d'ici peu de temps pour faire la rubrique autour du paysage avec nous. Non, Stéphane, tu te trompes de place. Eh oui, tu dois t'asseoir à côté de Johanna. Excusez-nous, hein, c'est des règlements d'ordre intérieur. Voilà. Et donc, rubrique autour du paysage pour reprendre. Johanna, tu nous lances ça et tu vas nous parler de quoi, Johanna?
En fait, avec Stéphane, on rebondit un peu par rapport à Nobro et par rapport à la notion de style et que parfois, c'est bon de ne pas bouder son plaisir. Moi, j'ai juste compilé, en fait, j'ai choisi quelques films d'animation qui me sont revenus à l'esprit tout simplement parce que graphiquement, ils m'avaient énormément marqué. Le premier réalisateur dont j'aimerais parler, il s'appelle Ron Reich. Je suis sûre que je le prononce très très bien, mais comme j'ai mis son nom sur le blog, c'est pas un problème. Le premier film que j'ai mis de lui, en fait, date de 2005, et le film est clairement basé sur une série de stickers éducatifs des années 50, dessinés par Geoffrey Higham, que je dis très bien sûrement aussi. Et donc c'est le travail de ces vignettes qui détermine complètement le graphisme du film. Par contre, avec ça, il raconte une histoire plutôt super cruelle. Donc, il y a très vite un gros paradoxe entre ces enfants qui sont très propres, qui sont censés véhiculer des idées sur l'éducation, et puis, en fin de compte, une histoire cruelle avec un génie qui, d'un coup, prend les poulains pouvoir et les enfants qui commencent à buter toute une série d'animaux. Le deuxième, en fait, qui s'appelle The Control Master, là, il pioche plus dans l'esthétique des comics US. Et donc, c'est de nouveau du recyclage complètement assumé. Donc là, c'est une histoire qui correspond plus au graphisme, parce qu'en fait, c'est des gentils, des méchants et des super-héros. Mais c'est assez drôle.
Ça sera visible sur le blog ou les
références ? Oui, je les ai tous mis en ligne. Sinon, ce gars, donc j'ai mis aussi un lien vers son site. Sinon, il a une production un peu plus déroutante. Il fait des clips pour U2, pour George Michael, Genesis et aussi Manu Chao.
Je pensais qu'on avait parlé de Sacha Distel.
C'est pas la peine de perdre
non,
du temps pour aller voir ça. Et aussi, il fait des pubs pour Coca-Cola. Mais donc, voilà, je préfère nettement quand il garde ses sous pour faire ses films d'auteur. Ensuite, je parle d'Emma de Soif, rien à voir. C'est une auteure très jeune, une auteure néerlandaise qui a fait un film qui s'appelle Zachteplanten. Je ne sais toujours pas si je le dis bien.
Zachteplanten.
Voilà. Alors là, on est dans un univers complètement différent. En fait, on plonge dans les rêveries d'un employé de bureau qui s'ennuie et qui s'endort. Jusque-là, on est dans des images donc de la prise de vue réelle. Et en fait, quand on plonge dans ces songes, on tombe dans un univers vraiment incroyable, complètement inédit, et on est dans du film d'animation au tricot. Et donc, c'est très cotonneux. Donc, en fait, l'univers est ultra silencieux, c'est une forêt, c'est un peu la pénombre, et plein de petits bonhommes bizarres. Et donc, tout est en tricot, tout est poilu, effiloché, filmé de près. Et donc, c'est hyper poétique, il y a une charge poétique très très forte. C'est muet, c'est très beau. Sinon, je vais passer Mourir auprès de toi. C'est un film, en fait, c'est une. Enfin, si j'en parle vite fait, mais c'est Spike Jonze qui s'est associé à une nana qui normalement fabrique des sacs en feutrine. C'est limite branchouille. J'en parle avec un tout petit peu de réticence parce qu'en fait, c'est un peu le coup de pub. C'est passé au Festival de Cannes. Bref, mais ça n'empêche que c'est fait en feutrine et c'est hyper bien fait.
C'est quoi la marque des sacs?
Écoute, ce sont les sacs de Mademoiselle.
Non, mais c'est bon.
Mais si tu achètes, je pense que tu achètes
le premier
magazine de filles que tu trouves dans ton prochain kiosque et il y aura une fille qui sera avec, c'est méga branchouille. Ensuite, je parle vite fait de Clément Kogler, qui est un artiste autrichien. Donc, de nouveau, il y a tous les liens sur le blog. Lui, il fait beaucoup de films d'animation de commande. Et alors, du coup, à chaque fois, c'est 15-20 secondes. Mais alors, au niveau graphique, c'est à chaque fois des trouvailles. Donc, il récupère aussi beaucoup de choses. Il fait des choses en collage. Et alors, il y en a un que j'ai mis sur le site, que je trouve assez incroyable, qui donne l'impression, parce qu'il n'est pas fou à ce point-là, je pense, d'avoir fait son film en point de croix. Et donc, c'est un travelling super classe. Et tout est comme s'il avait engagé sa grand-mère. Je ne sais pas techniquement comment il a fait, mais donc, il faut aller voir ça. Ça dure 20 secondes, mais c'est très, très beau. Voilà, il y a plein de choses à voir sur son site. C'est un graphiste très, très intéressant. Voilà.
Juste pour parler du style, parce que j'y repense, il y avait à Pierre-Feuille-Ciseaux l'exposition de Paulina Petrucina, qui était absolument magnifique, qui est un travail de... qui mélange bande dessinée et tissu, puisque ce sont soit elle va faire une grande planche, et en fait ça elle est aidée en ça par sa mère pour fixer dessus, tout recouper, tout fixer en tissu. Les pièces sont assez grandes et sont très très belles, très réussies. Je trouve aussi que là il y a un travail sur à la fois le style et puis sur la matière qui est vraiment intéressant.
Oui, j'ai vu des photos, j'aimerais vraiment bien voir.
Parler d'Aurélie William Levaux aussi, là tantôt. Oui. Entre-temps, juste avant de passer la parole à Stéphane, nous avons accueilli, se sont glissés discrètement dans le studio, Marie-Sor et Nilso. Bonsoir.
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 Voilà, donc chacun un micro. Bien parler face à ce micro parce qu'il est particulier. Donc n'hésitez pas à intervenir pendant cette rubrique. Puis juste après, on aura l'agenda. Et puis on aura l'occasion de parler amplement avec vous.
Je voulais juste moi présenter.
Et on reprend la rubrique, Stéphane, ouais. Tout à fait.
Deux petites choses, très rapidement.
Allons-y.
Je me suis fait taper sur les doigts pour avoir parlé pendant 8 minutes des Arnolfini la fois passée. Alors, je vais parler rapidement de Standard Time de Mark Formanek, qui est un Allemand, et qui a fait donc avec Standard Time un truc assez étrange. Ça n'a rien à voir avec les choses que propose notre amie Johanna, puisque ici il s'agit d'une montre digitale, mais qui est faite qui est faite avec des planches et qui sont environ 3 mètres de, non, que je raconte, 5 mètres de haut. Et donc c'est une performance où pendant 24 heures, 6 ouvriers changent l'heure toutes les minutes, puisqu'on a, donc il est 19h08 et d'un seul coup on a 19h09. Et donc, pour faire transformer un 8 en 9, il suffit d'enlever une planche. Mais à d'autres moments, c'est vachement plus compliqué, puisque il s'agit de transformer des 2 en 3. et des 9 en zéro. Et donc voilà, donc c'est une performance qui a duré 24 heures, filmée en temps réel, et pendant lesquelles sont changées des planches pour faire en digital les chiffres, mais tout ça est fait en pure analogique.
Et donc en une minute, ils doivent changer à chaque fois, quelle que soit la complexité, ce qui est assez impressionnant.
Et donc au changement d'heure, là, on a parfois des cavalages, comme vous le voyez.
Je l'ai regardé pendant 10 minutes, ça, sur une télé qui s'appelle Souvenir from Earth, qui passe beaucoup de vidéos, je ne sais pas si vous connaissez cette
Non, je ne vois pas, ça a l'air super s'il passe ça. Et donc,
c'est super.
Et donc voilà, c'est visible en installation, on peut aussi l'acheter pour la mettre sur une télé à côté de son lit et ainsi avoir...
Moi, je dessinais à côté, de temps en temps, je regardais, je me disais, c'est pas possible, ça continue, ça continue.
Et donc voilà, donc ça c'était du côté des arts numériques. Bon, est-ce qu'on est dans le numérique, dans l'analogique? On ne sait pas très bien. Et je vous démontrer une deuxième chose. J'ai prévu trois trucs, mais il y en a une troisième sur le blog qui est casérisme, ça vous irez voir. Je voulais montrer l'escrime, parce que c'est quand même un espèce d'objet assez étrange des années... typique des années 70 en photographie. C'est un personnage qui a commencé à photographier donc fin des années 60 jusqu'aujourd'hui. Il a eu une grosse traversée du désert et là maintenant on le redécouvre. Il a fait dans les années 70 des mises en scène assez simples au départ avec ici on a une jeune fille à poil qui se fait mettre des rangs par un mec qui lui fait face à coucher sur un lit. Par la suite il a fait des choses plus incongrues politiquement et culturellement. Des femmes à poil avec des masques de mini devant des Mickey gonflés en forme de croix catholique, donc des choses tout à fait bizarres, et des mises en scène de plus en plus dingues, dans lesquelles on a des gens à poil, même parfois des fellations photographiées, et des...
À poil, hein, ça c'est bien, bien, à poil. Bien parfois, le redire plein de fois.
Parfois dans la sauce andalouse, avec des mises en scène, donc dans l'espace, qui rappellent un peu Sandy Skoglund, pour ceux qui connaissent un peu la photographie de mise en scène, et bon, je vais montrer pour nos amis en studio quelques photographies qui ne sont pas sur le blog, mais il suffit de faire une recherche sur l'escrime il a un site assez bien fourni dans lequel on peut même télécharger des images et les imprimer chez son revendeur le plus proche. Donc voici le genre de choses qu'il a fait, donc de nouveau des femmes nues et pas à poil.
Le nom est sur le blog, juste pour être sûr que les
L'escrime,
gens...
L'escrime, oui, voilà, sa mère recouverte de photographies, donc une utilisation de l'espace de la photographie très recouverte, très en all over comme on dit, et des scènes absolument étranges. Voilà, avec des femmes, des hommes dans des intérieurs super chargés, une utilisation d'espace tout à fait étrange. Voilà ici.
Décris-nous cette photo.
Une femme est couchée sur un lit, les jambes écartées, et de son entrejambe s'élève une fumée étrange, photographiée à contre-jour, ce qui lui donne une belle présence. Et voilà, le bassin légèrement tiré vers le haut. Voilà, bon. Donc, ce photographe qui, on n'entendait plus parler qu'en rigolant, d'un seul coup, il revient tout doucement parce que cette espèce d'incongruité, cette façon de photographier un peu poisseuse, même en noir et blanc, revient à l'avant-plan. Il a commencé à faire des montages Photoshop début des années 90 et là, c'est parti en couille, raison pour laquelle aussi tout le monde a commencé.
Donc, le Frank Miller de la photographie.
Oui, c'est ça. Et puis maintenant.
Excusez-moi. Voilà.
Il fallait bien qu'on le cite une dernière fois. Et voilà.
Une dernière fois, ça, j'en suis vraiment pas sûr. Le but étant de citer Frank Miller 15 fois ce soir.
Et donc, j'insiste sur le fait qu'on a un blog et que, pour une fois, en plus, il est à jour pour l'émission. Et il y a tous les liens, toutes les explications, les images, les vidéos et tout.
Les explications. Ouais.
Mais non, mais les petites... Pas les explications, les petites introductions, quoi. Ce qu'on dit ici, mais peut-être un peu plus posé.
Il y a toutes les références, en tout cas, voilà. Dont on parle pendant l'émission. Alors, juste encore un petit agenda avant de... passer aux invités. Je passerai la parole pour finir cet agenda à Johanna. Je vais parler des autres choses qu'il y a sur l'agenda. Donc, les auteurs Frémok s'exposent à la librairie Saint-Hubert à Bruxelles. Une expo qui s'appelle Play With Us. C'est jusqu'au 30 octobre. Donc, il faut se dépêcher. C'est dans quelques jours. Il y a aussi une compétition à laquelle participe Alex de Motté, parce qu'il fallait aussi citer trois fois le nom d'Alex de Motté. Aujourd'hui, c'est fait. Qui s'appelle Brussels in Shorts, qui est en gros une compétition internationale de romans graphiques. Vous pouvez y participer jusqu'au 31 octobre, donc c'est encore possible. L'exposition de nos invités commence à partir de vendredi, donc du 28 octobre jusqu'au 20 novembre, donc de Marie-Saure et Nilsson. C'est chez Nord-Est. Là aussi, toutes les infos sur le site. Par contre, l'expo de Bulu et de Gwenola Carrère, dont on vous a parlé, elle se termine en beauté ce week-end, puisqu'il y aura un concert de Bertrand Betch samedi soir, un concert de Ralph White en clôture le dimanche. Donc ça, c'est du côté du Bauhaus. Une exposition d'attaque à la librairie Nomad Art Factory à Paris. C'est Johanna qui nous a mis ça. Et puis, un peu plus tard, on aura le 5 novembre un vernissage d'une expo, cette fois-ci de Nord-Est, dont fait partie, rappelez-moi, Alex de Motet. Merci, je vois que je suis bien aidé. Et Brugger. Alors là, je vous laisse le soin de découvrir qui c'est. Une petite note de service de Nicolas. Et puis Johanna.
Oui, je signalais, nous avons parlé de Fabien Wellman. J'ai mentionné tantôt le Attends de Jason. Signalons à partir du 22 novembre à la librairie Multibd l'exposition qui sera une exposition Wellman-Jason autour de leur album L'île aux 100 000 morts. Et une occasion, surtout plus que de présenter simplement les planches de L'île aux 100 000 morts, d'essayer de voir comment s'est fait leur rencontre entre ces deux auteurs, ces deux univers qui sont très particuliers, au travers aussi de planches venues d'albums précédents de Wellman ou de planches venues d'albums précédents de Jason qui seront commentées par les auteurs, où on pourra en fait découvrir comment finalement ils sont devenus familiers l'un par rapport au travail de l'autre et comment est né ce projet, cet album commun dont on avait parlé dans l'émission et qui nous avait assez bien marqué, parce que pour un album tout public, c'est quelque chose d'assez inédit dans son genre.
Donc là, un vernissage le 22 novembre. On a une émission le 23, donc on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Mais donc, vernissage le 22 novembre. Et alors, Johanna va clôturer en nous parlant de Centrale Vapeur qui se déroule ce week-end à Strasbourg.
Ça fait du 27 au 30 octobre 2011, Centrale Vapeur. Moi, je découvre ça là, depuis deux jours.
C'est une grosse claque.
Bah oui, un peu quand même. Le programme déjà.
Encore des trucs. Pourquoi on nous cache plein de trucs?
C'est Simon Roussin qui fait la première page du programme, rien que ça. Moi, rien que pour ça, j'ai envie d'y aller. Alors, Centrale Vapeur, c'est un collectif strasbourgeois qui apparemment est une réunion de gens, des éditeurs, des auteurs, des dessinateurs.
Tout à fait, signalons la présence de Fabien Texier qui est aussi à PFC, parce que là, il fallait au moins le dire 20 fois PFC ce soir.
Il nous paye cher aussi PFC pour qu'on en parle comme ça. Et donc. Ces gens, apparemment, font que ça bouge beaucoup à Strasbourg. Et là, ce salon en est la preuve. Donc, c'est à la fois une réunion. Donc ils invitent des gens du coin de Strasbourg, de France et de Belgique. Oui, j'avais dit une minute. Et c'est aussi des expositions, dont une exposition de Simon Roussin. Mais il y a aussi plein d'autres auteurs. Et aussi plein de conférences sur les arts narratifs, la bande dessinée, l'illustration. Et vraiment, l'esprit, apparemment, c'est de décloisonner tout ça.
Il y a peut-être d'affiches monstrueuses, hein, dans le genre.
Il y a Jochen Gerner, J.C. Menu, Amandine Ruti, des historiens d'art. Enfin bon, voilà, c'est un peu de quoi baver. Des concerts, des projections, le film de Poulet aux prunes, donc de Marianne Satrapi et Parounod. Donc voilà, plein de choses. On a mis de nouveau le lien sur Internet parce que ça mérite un peu plus de temps que ça.
Et l'employé du mois, il sera en plus.
L'employé du mois, il sera.
C'est Pascal Maté.
Voilà, et puis je vois Expo Anouk Ricard, Killhofer, enfin bref. Ouais. Bider, or, B-Square.
Voilà.
Voilà, nous avons fini cet agenda et nous allons se réécouter un morceau de Graham Nash qui s'appelle Simple Man, mais avant ça, Nilso va nous expliquer pourquoi Graham Nash, qui est Graham Nash.
Graham Nash, donc, voilà. On le connaît dans... Graham, style Graham, comment c'est sur l'album Déjà Vu avec Crosby, Stills, Nash & Young.
D'accord.
Et en fait, par simple curiosité, je me suis demandé pourquoi il n'était pas aussi connu que les autres, pourquoi ses albums solo étaient moins écoutés. Et donc, j'ai pris l'album et en l'écoutant, j'ai pris une claque. C'est. Super agréable à écouter quand on fait la bande dessinée. Et l'année dernière, j'étais en résidence en Corse et j'ai écouté que ça avec mon iPod. J'ai marché pendant des heures et des heures. Donc voilà, ça fait partie de, de ma vie maintenant. Et surtout, la chanson Simple Man, c'est vraiment, c'est presque un hymne. Quoi.
Un hymne à quoi?
I am a simple man. C'est génial. Je suis rien, quoi. Je fais juste une petite chanson et l'album Song for the Beginners. Voilà, tout le monde peut la jouer, tout le monde peut la chanter. Enfin, j'adore cette simplicité-là, quoi. Et je me suis dit que ça collait bien avec l'émission. En plus, ça permet aussi de ramener un vinyle.
De profiter en effet de la platine vinyle.
C'est le dernier cadeau d'anniversaire que m'a fait Marie. Donc voilà. J'ai rien d'autre à dire.
Bien, ben, on écoute le morceau et puis après on regardera quel est le cadeau d'anniversaire que Nils a fait à Marie. Ça, on verra si on parlera de ça ou d'autre.
Tu l'as autour du cou.
Écoutons un peu de musique.
I am a simple man, so I sing a simple song. I've never been so much in love.
Alors moi j'ai dans les mains le revue de détail qui est, j'imagine, la petite chose qui sera vendue vendredi lors du vernissage de votre expo. Et en fait, je feuilletais ça pendant que j'écoutais ce Simple Man nous dire à quel point il était un Simple Man. Et j'avais sous les yeux des dessins qui sont des dessins de paysages qui sont en fait ont été réalisés en Creuse, tu disais.
Oui.
En Creuse. Et dans lesquels, en voyant ceci, on est tout à fait dans l'univers décrit par la chanson, d'un homme qui enfin est arrivé à la maturité de sa vie, à se déposséder de toute la hâte d'être au monde pour enfin pouvoir dessiner une maison avec des petits traits réitérés les uns à côté des autres.
Ceci près que tu as ouvert la page à l'endroit où j'ai fait un croquis en Russie, et c'est une datcha, et c'est la datcha de Varvara, qui est une amie de Paulina, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et il n'y a pas que des croquis de Creuse. Marie a fait une sélection à partir de tous les travaux qu'on a fait en 2011. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait pas mal travaillé cette année. Et un peu tous azimuts.
Oui, justement.
Mais juste pour remettre un peu dans le contexte, parce qu'on avait un peu oublié de le faire la fois passée avec Gilles. Oui. Donc nous accueillons Nilso et Marisor.
Oui.
Nilso, on avait déjà eu l'occasion de passer une interview faite avec lui en Angoulême, je crois, il y a 2 ans. Donc, je vais juste reprendre pour faire bref, mais pour resituer un peu. Donc, on va passer sur le côté labo, chimie et tout ça. Mais donc, tu as mis en place le CIMO, donc qui était un collectif basé à Rennes, où toute une série d'auteurs ont participé. Ça, c'était dans les années...
Ça a commencé en novembre 93.
Voilà, en novembre 93... Par la suite, tu as travaillé sur la série donc Jérôme d'Alphagraph, qui est peut-être la chose la plus longue sur laquelle tu as travaillé jusqu'à maintenant, aux éditions Flubbelub, et où Marie est intervenue, puisque depuis Jérôme et le Lièvre, toi, vous avez travaillé ensemble. Voilà, donc ça, c'est là que tu interviens. J'avais noté plein de choses, les études en littérature, langue et communication. Mais on va pas parler de ça, d'UNER et tout ça. J'avais bien fait mon petit travail, mais comme on a été pris un peu de cours. Donc voilà, mais ça, c'est pour un peu resituer. Et donc, Nico, je te repasse la parole.
Oui, non, donc effectivement, Stéphane parlait de paysage et je voulais juste revenir à lire absolument un superbe article écrit par David Turgeon sur Jérôme et la route, donc de Nilso et Marie Saure, sur le site de Duneuf, parce que pour découvrir leur univers, leur travail, je trouve que ce texte de David Turgeon est vraiment superbe, parce que je trouve qu'il va, il résume bien, il capture vraiment l'essentiel de leur travail. Et je reviens sur ce texte parce qu'il y avait justement cette phrase de David Turgeon qui dit « Regardez ces paysages, ce sont des dessins avant d'être des lieux ». Effectivement, c'est quelque chose qui est fort marquant dans ton travail. Je trouve que le rapport au dessin, on le sent très présent, surtout parce qu'il y a ce travail de la hachure, où effectivement on voit le travail, il ne s'efface. Je trouve que le trait est vraiment, là il est présent, et on vit ce dessin, et on profite pleinement de ce dessin. Je trouve pour nous en tant que lecteurs, et c'est vrai que surtout quand on feuillette le catalogue de l'exposition Nord-Est, c'est un vrai plaisir de passer au travers de tous ces dessins, de ce travail qui est là. Et c'est voilà, juste pour signaler ça, parce que je trouve qu'il y a vraiment un vrai plaisir, comme on parlait de générosité là tantôt, effectivement une vraie générosité aussi dans ton dessin. Maintenant, est-ce que toi, par exemple, ton travail de dessinateur, c'est quelque chose que tu fais comment tu abordes ton rapport au dessin, à cette hachure? C'est quelque chose pour toi qui serait fastidieux, ou bien c'est quelque chose pour lequel tu prends vraiment beaucoup de plaisir
à travailler dans le travail?
C'est sûr que depuis 10 ans, c'est presque comme une hygiène de vie, je dirais. Voilà, j'ai hâte de me lever le matin très tôt pour faire mes hachures. L'année dernière, je me rappelle, je me suis isolé pendant plus d'un mois et demi au bord de la mer, et mes pieds ne touchaient plus le sol. J'étais tellement heureux d'être là à dessiner, de pouvoir avoir cette chance de...
Mais sous une forme thérapeutique, parce que ça peut être... Il y a des artistes qui disent, à un moment donné, je suis dans mon atelier, ou Lacan qui disait qu'il taillait ses roses parce que c'est le seul truc qui pouvait un peu le calmer et le ramener dans le monde. Ou d'autres artistes qui font quelque chose comme une forme de thérapie pour éviter le flip. Est-ce que c'est quelque chose de cet ordre-là, ou est-ce que c'est une façon d'être au monde?
En fait, je ne sais pas trop... Une thérapie, non, sûrement pas. C'est comme un travail. Pour répondre un peu à côté, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est les derniers textes de Witold Gombrowicz, c'est un enregistrement qui a été ensuite publié en livre, et ça s'appelle ils ont appelé ça son testament, et c'est un livre assez rare, qui n'est pas très très bien écrit, mais il parle tout le temps de la forme, du coup, je tourne autour de ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit l'ennemi, c'est la forme. Et c'est que les dernières lignes du bouquin, il n'a jamais rien dit après. Et du coup, ça fait des années que je tourne autour de ça. Et quand on écrit ensemble, Marie et moi, on part d'idées, mais moi, je pars des hachures, et ensuite, on écrit, on modifie. Mais à partir de quelque chose que je fais presque au centre de la page... j'essaye d'avoir la main, quoi. Et ensuite, on construit la page. Alors, des fois, elle écrit le texte avant et puis je construis autour. Mais c'est souvent, ça vient des hachures. Et puis de là, il y a quelque chose, un fil qui sort et puis on écrit autour.
Donc justement, comment vous travaillez, Marie, qui vient d'un background plus littéraire, de ce que j'en ai compris. Et alors, je lisais aussi dans une de tes interviews, je crois pour le Comics Club, justement, où tu disais, j'ai pas vraiment de thème ou de discours politique ou de... ce qui est important pour moi, c'est l'écriture. Comment est-ce que vous arrivez très concrètement à travailler ensemble? Comment ça se passe?
Que lui, il se lève très tôt.
Ah oui, mais moi, ça va aussi. Je peux... Non, mais par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord sur qu'on part de tes hachures. On part de visions d'images, mais qui ne sont pas encore dessinées, en général. Et puis, on discute ensemble, en fait, de ce dont on va parler. Et après, moi, j'écris, je te fais lire, et tu fais refaire. Et moi, je vais refaire les dessins aussi.
Et tu écris,
on
alors
refait, beaucoup. Justement, on refait tout le temps.
Toi, ça veut dire que tu dessines aussi?
J'écris le texte et je montre comment je le vois dans la page avec les dessins. Enfin, on se parle beaucoup, puis comme on refait beaucoup, ça change tout le temps. Enfin, l'échange, il est permanent. J'ai jamais 10 km d'avance. Et si je les ai, de toute façon, ça servira à rien. Mais je les fais quand même. Mais Nils aussi dessine beaucoup d'avance et ça sert à rien non plus. Non, on garde pas.
C'est-à-dire que moi j'ai la faculté d'oublier ce qu'on avait décidé. Mais Marie, tu dessines pas, disons, tu fais pas les hachures, mais après tu les bidouilles. Sur Photoshop, elle peut changer complètement.
Oui, mais ça c'est quand on a un truc assez avancé. Ouais, on est au stade.
C'est-à-dire que maintenant l'objectif c'est quand même de faire un livre. et l'objectif, c'est que ça soit lisible et que la narration corresponde à ce qu'on a en tête au départ. Et c'est vrai que moi, je le perds de vue parce que c'est long de dessiner, c'est un long tunnel, ça peut être... on peut s'y perdre et ça peut être ennuyeux. Donc, chaque matin, justement, j'oublie complètement le projet et des fois, je pars sur des chemins de traverse et... Bon, ces planches-là, des fois, sont récupérées, Marie réécrit pour que ça soit réintégré. Mais des fois, non, ça part dans le tiroir de droite. Mais de toute façon, après, on remonte tout ensemble sur Photoshop. Au début, j'étais complètement omnibilé par l'idée de faire une belle planche. Maintenant, je sais qu'elles peuvent être éventuellement exposées, comme cette semaine, hein, mais dans la bande dessinée, je change tout. Je suis même capable de faire une image miroir, de tout transformer, de changer les personnages, d'intégrer de nouveau. Parce que c'est là où on s'amuse tous les deux, c'est dans l'écriture. On essaie quand même de... Dans le mois ou le mois et demi, on recorrige tout ensemble et on refait le livre, de revenir à l'essentiel. Donc il y a deux vies. Il y a une vie où il y a effectivement les hachures. Et là, effectivement, j'oublie ta présence et ton texte. Et puis après, on fait le livre.
Et quand tu dis écriture, est-ce que le mot écriture veut dire de l'écrit, des lettres, ou est-ce que l'écriture, c'est l'assemblage du texte et de l'image ?
Pour moi, c'est l'assemblage du texte et de l'image. Oui. C'est pour ça que Marie dessine aussi, parce qu'elle me dit, fais plus de hachures, fais-en moins. Il faut que la page soit grise, il faut que la page soit noire. Ou même des fois, quand je fais des croquis, elle n'est pas très loin. Elle me dit, ça, tu l'as déjà fait. Donc ça oriente. Et c'est une matière à deux.
J'espère aussi que le texte ne soit pas trop bâclé non plus. Enfin, aussi quelque chose à ce niveau-là, mais j'y arrive peut-être, je sais pas.
Moi, ce que je trouve intéressant par rapport à l'écriture, et on le voit dans une des planches du catalogue qui revient dans d'autres albums, c'est donc il y a vraiment un travail qui peut être souvent utilisé de très petites cases, donc un gaufrier avec des cases très petites, et c'est assez varié dans les albums parce que vous diversifiez assez fort le cadrage, mais où effectivement au sein de ces très petites cases, il y a une place qui est laissée au texte, qui est assez réduite, et où on doit effectivement avoir des phrases très courtes. Et comment, par exemple, on travaille sur... parce que c'est presque de la scansion. Il faut verbe, sujet, complément, maximum, dans chaque phylactère, parce qu'il n'y a pas plus. Est-ce que c'est quelque chose de voulu, par exemple, de se dire, on va tout découper, très serré, faire un petit découpage pour pouvoir jouer avec ce texte-là, ou est-ce que c'est une contrainte, ou est-ce que dès le départ c'est écrit en se disant, voilà, je veux faire quelque chose, des phrases très courtes qui respirent, qui s'enchaînent, et puis après on voit comment on le met en scène.
Comme là c'est une course-poursuite, évidemment il fallait que le texte soit rapide, et enfin, comment la faire vivre dans une page fixe. Oui, je pense qu'on, enfin, le rythme, c'est hyper important en bande dessinée. Quand j'écris les textes, j'y pense, je pense qu'à ça, en fait, au rythme, et comment ça va être réparti dans les cases et selon ce qui se passe. Donc, si c'est Jérôme tout doucement, enfin, ça peut s'accélérer aussi, ou si c'est à courte poursuite, et puis même au niveau de ce qu'on peut se dire quand on est dans une voiture à fond la caisse, pas des longs romans.
Vous êtes, on lisait là tantôt, finalement aucun de vous deux n'a une formation de base, on va dire, par rapport au dessin, ou je sais pas, par rapport à la bande dessinée, ou de manière générale. Toi aussi, Marie, alors quelque part, puisque tu parlais de rythme, tu dis là, dans la bande dessinée, le rythme, c'est important, mais c'est quelque chose que tu as dû découvrir, apprendre, mettre en application spontanément. Et Nilso, c'est la même chose par rapport au dessin. Donc ça veut dire que, quelque part, vous avez construit ensemble et appris sur le tas, construit ensemble Jérôme d'Alphagraphe, qui, moi, j'ai l'impression maintenant, voilà, pour les avoir tous lus, et qui j'ai l'impression, a un rythme de croisière, c'est pas péjoratif, mais qui s'est densifié, solidifié. J'ai l'impression qu'au début, ce personnage de Jérôme était, j'ai l'impression, plus fragile, pouvait peut-être être emporté à gauche et à droite. Et ici, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des albums, on le sent plus déterminé. Forcément, c'est aussi un parcours initiatique, donc il découvre des choses et tout ça. Mais voilà, c'est comme si finalement aussi peut-être la confiance que vous avez gagnée en tant qu'auteur rejaillissait sur l'histoire. Enfin, il y a pour moi quelque chose de ça, mais...
C'est donc Nisso qui a créé le personnage de Jérôme et qui l'a toujours présenté comme un journal. Donc oui, effectivement, il évolue avec nous.
Je crois qu'il s'agit d'un passage de parole.
Ouais. Non, moi, je me suis retrouvé dans une situation ambiguë, c'est que j'ai toujours adoré la littérature, mais je lis beaucoup, mais je relis les mêmes livres. Je suis pas quelqu'un qui, je suis pas un vrai littéraire. J'ai encore à découvrir Flaubert. J'ai pas tout lu Flaubert. Je suis pas comme Marie qui a une vraie formation, qui comprend bien l'écriture, qui la poésie, etc. Et donc à un moment donné, comme le hasard a fait qu'on a commencé à travailler ensemble, ça m'a paru évident que c'était la possibilité de donner du fond à Jérôme, qui n'était au début qu'un découvreur naïf et qui appliquait presque tout de suite dans sa vie de tous les jours ce qu'il pouvait lire de Giacomo Leopardi ou des philosophes ou des écrivains qui en apparence étaient simples et qu'il pouvait citer. Et il y avait une apparence de culture, disons, livresque. Mais il vieillit, il grandit, et puis il va vers quelque chose de plus en plus obscur et de plus en plus crépusculaire. Et donc, du coup, ses lectures doivent être plus profondes. Mais il rencontre aussi des personnages profonds. Et moi, je ne peux pas faire vivre ces personnages profonds parce que moi, je suis beaucoup plus proche de Jérôme et je n'évolue pas tant que ça. Je reste très proche de Jérôme. Et en tout cas, j'évolue lentement. J'évolue plus sur le dessin, sur effectivement le plaisir d'une écriture dessinée que sur ma culture, que je ne pourrais jamais ouvrir au point d'avoir une culture livresque importante. Marie l'a, cette culture-là. Donc, quand on discutait par exemple sur le dernier, les derniers chapitres de Jérôme, on parlait de Flaubert, on a inventé un personnage qui s'appelle Flaubert.
C'est inédit. Hein.
Là, je parle d'inédit, je parle de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Pour moi, c'est génial parce que je suis en train de lire l'éducation sentimentale, mais je suis pas sûr d'en comprendre tout. Peut-être que toi, Marie, non plus. En tout cas, Marie m'a amené à le lire. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que chacun fait jouer ses marionnettes avec son talent propre. Et ça enrichit forcément le...
Il y a peut-être aussi qu'en travaillant à deux, on a ajouté des personnages. Et la fragilité maintenant se répartit sur plusieurs personnages. Et enfin, dans le dernier tome paru, on se concentre plus sur Jérôme. Et c'est les autres personnages en fait qui prennent la faiblesse, l'instabilité.
Toujours à propos du rythme, pardon. Je crois que dans l'interview d'Angoulême, tu parlais de l'importance de la musique dans ton travail, directement même dans ton travail. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui joue entre vous deux, à partir du moment où vous passez de 1 à 2? Est-ce que la musique, c'est aussi un dialogue entre vous, une manière de communiquer sur le contenu du livre, ou bien c'est quelque chose qui reste de l'ordre du travail de Nilsson uniquement? Ou est-ce qu'entre vous, vous communiquez sur une émotion ou un passage du livre en disant que ça me rappelle un morceau en particulier ou un rythme d'une chanson ou...
On a des bandes musicales.
Ouais, enfin, il y a ce que Nilsson écoute au casque en dessinant, que moi, j'écoute pas, et puis j'écoute pas la musique en écrivant. Et après, quand on termine un livre, on a deux, trois morceaux pour se donner du courage, toujours les mêmes à chaque livre. Ouais.
Pour chaque livre, il y a une bande son différente. Par exemple, il y avait Interpol pour Jérôme et la route.
Non, bien avant.
Ah non, c'était celui d'avant, oui, t'as raison. Non, pour les derniers, c'était plus la bande son suédoise.
Hein. Oui. L'électro-suédoise.
Ouais, avec Gigi, avec Beach House.
Là, discrètement, vous nous annoncez un disque.
Pas du tout ça.
Non, c'est un disque avec chaque fois.
On ne les a pas ramenés.
Mais en tout cas, quand on travaille, on a chacun notre casque et on est dans deux mondes séparés. Des fois, on s'envoie même des mails quand on est dans la pièce d'à côté. Pour ne pas déranger.
Non, mais c'est comme dans les pubs, ça.
C'est très. Sinon, il n'y a pas tellement de bruit chez nous. C'est pas... Mais on écoute de la musique beaucoup tous les deux, quand même.
Alors, on va s'écouter un dernier morceau de musique, passer à la seconde partie de l'interview, qui se clôturera par un quiz musical, cette fois-ci, avec quatre morceaux de rock rennais que nous a préparé Jean-François. Donc voilà, c'est bien, je me suis dit c'est bien, je vais mettre la petite pression.
J'aurais dû réviser.
Et il y a du lourd hein, quand je vois la liste là. Et donc, on va s'écouter Stereolab. Ça c'est, je ne sais pas si quelque chose que vous écoutez tous les deux, c'est Marie qui a fait ce choix-là. Excursions into Ho Hey Ho. Est-ce que voilà, tu peux nous en toucher un mot juste par rapport à ce choix ou...
Ouais, en fait j'ai déjà massacré la pochette d'un 33 tours en venant ici, en train.
Désolé.
Et donc j'ai pris un 45 tours pour moi. Et que j'ai acheté en même temps en fait que le 33 tours. Et voilà, je n'avais pas écouté Stereolab depuis les années 90. Et je me suis dit, ah, oh, mais ça existe encore, enfin.
Bon, nous aussi, ça fait longtemps qu'on a pu écouter Stereolab, donc on va l'écouter avec plaisir, voilà. Voilà, de retour pour cette seconde partie d'interview. Johanna, toi qui es un peu de ce coin-là, tu voulais parler un peu de la scène rennaise.
En fait, c'est marrant parce que donc, j'habitais Rennes quelques années et je passais tous les jours devant chez Alphagraph, qui est donc une librairie rennaise. Et un jour, je vois un petit livre et c'est Jérôme d'Alphagraph. Et donc, je savais que ce libraire s'appelait Jérôme et je ne captais pas en voyant ce livre. Je me disais... Je ne comprends pas. Au milieu de plein d'autres BD, il y avait une BD.
Quel égo surdimensionné. Il fait sa propre BD qu'il vend dans sa propre librairie.
Ça peut pas être un hasard, Jérôme d'Alphagraph, tu vois. Et bon, voilà, c'est Nilso. Et du coup, je voulais un peu vous questionner sur... parce qu'en fait, tu parles... Donc voilà, c'est quand même l'histoire d'un libraire. Donc il y a quand même des liens évidents avec ce personnage. Et je pense que Jérôme, donc le libraire, a une place importante aussi. Je ne sais pas si vous voulez parler un peu de la scène rennaise ou... des choses qui peuvent se passer là-bas.
Mais c'est certain que Jérôme a une place importante. C'est une catastrophe annoncée, la fin de sa librairie, qui a été fermée 4-5 mois parce qu'il y a eu un dégât des eaux. Et ça a réouvert
en juin.
Et on est venu avec du vin, des gâteaux.
C'est
Jérôme Comics spécial pour sa réouverture. Il était super ému de voir que c'est une réalité pour nous de soutenir son travail. J'envisage pas la fin de cette librairie, quoi, personnellement.
Ben, disons que s'il fermait, on saurait pas où aller, ni regarder les BD des autres, ni les nôtres. Enfin, il y aurait pas d'endroit à Rennes pour nous.
C'est-à-dire qu'ils sélectionnent tellement qu'on finit par croire que la bande dessinée, c'est ce qu'ils présentent. Et quand on se retrouve dans des vraies librairies, on a... Il n'y a pas de vraie librairie à Rennes, en fait. Il y a Manfin, qui est très vieille bande dessinée, des gens qui ont plus de 50 ans, qui sont fidèles à des séries. Mais il n'y a pas de librairie où il y a tout. Il pourrait y avoir autant de l'underground que... Donc on a Virgin ou la Fnac, etc. Donc,
Moi, j'ai relu de la bande dessinée parce que je passais devant Alphagraph. Je ne lisais pas depuis que j'étais gamine. Donc c'est vraiment...
C'est... Ça a joué, oui, pour moi aussi, je pense. Moi, j'ai connu Alphagraph bien avant de travailler avec Nilso, et j'ai re-regardé des trucs de bande dessinée comme ça.
Et donc, ça a démarré comment? C'est quoi l'histoire? Pourquoi, en fin de compte, il se retrouve dans ta première bande dessinée, et puis après, dans toute une série
C'est un petit peu à cause de ce pont, en fait, bizarrement. ce journal publié par l'Emploi du Mois toutes les semaines. Parce que moi, à l'époque, je ne le connaissais pas, ce journal, mais Sébastien Lumineau le connaissait. Et en fait, on a discuté avec Jérôme du fait qu'à certains moments, comme il vend les bandes dessinées qu'il aime, et comme ça joue en fonction de ses goûts, il y a des moments où il va lire peut-être plus de polar, de littérature, il s'intéresse moins à la BD, puis il y a des moments où il y en avait moins de nouveautés. Et nous, on savait ce qui sortait, donc un jour, on lui dit, mais il n'y a pas trop de nouveautés en ce moment. Il nous dit, si vous dessinez un tout petit peu plus, je pourrais en proposer de la nouveauté. C'est vrai qu'à Rennes, il y a des dessinateurs qui travaillent tous les jours, mais on ne voit pas beaucoup de livres sortir, en fait. C'est un peu la même chose en musique. J'ai l'impression qu'on se s'auto-satisfait à Rennes. On se lit entre nous, on va voir les concerts des rockers rennais, et puis ça ne sort pas tellement de Rennes.
Après, on a parlé déjà dans cette émission d'une série de personnes, hein, de Sébastien Lumineau,
ouais.
De ses bouquins, des taupes de l'espace, de son travail par rapport à ça, de la chose aussi.
Oui, parce qu'il y a une connexion avec l'Emploi du Mois, on se connaît, on s'apprécie, mais en dehors de ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait une véritable... Enfin, il n'y a pas un gros public pour notre...
Et donc, pour revenir, donc, la suite, donc, vous décidez de faire... De deux
oui, on est sorti à 3 ou 4 sur le trottoir juste devant Alphagraph, et puis on s'est dit, ben, on va faire ce week-end, là, en 2-3 jours, on va lui faire un comics, on va lui ramener, et puis Sébastien a dit, ben, on va faire mieux, on va faire comme Spon, on va faire toutes les semaines un journal. Par contre, on n'est pas du tout parti sur le même format que Spon, parce que c'était pas une équipe de 8 personnes qui faisait en professionnel... un comité de rédaction le mercredi pour le sortir le jeudi, parce qu'on n'est pas du tout comme ça, on est bordélique et anarchiste, et on a fait une TAS, hein, c'est-à-dire un journal non déclaré, avec personne ne décidait, on déposait les planches chez Jérôme, sur son kiosque, et celui qui était disponible le mettait en forme et le publiait. Et on cherchait dans la poubelle du photocopieur un truc qu'on mettait en couve. C'était du grand n'importe quoi. Et il y a des enfants qui ont publié chez Jérôme Comics. Il y a un artiste paysan. Il y a un paysan, un voisin qui s'est mis à dessiner. Il y a eu un peu n'importe quoi. Et il y a eu quelques feuilletons qui se sont mis en place, dont Le chien de la voisine de Sébastien Lumineau, Bétagraphe de Big Ben, il y a eu Fafé a fait beaucoup de planches aussi, Madame l'ambassadrice, moi avec Jérôme. Et en fait, on s'est, sans s'en rendre compte, on est rentré dans un processus d'écriture. Voilà. Il y a eu un avant et un après. Et au début, on caricaturait Jérôme. C'est pour ça que moi, j'ai pris le nom de Jérôme. Et puis, comme je n'ai pas des milliards d'idées, je suis resté sur cette caricature et sur le nom de Jérôme.
Ça, c'est la genèse de Jérôme d'Alphagraph, qui maintenant est à six bouquins, si je ne me trompe pas, ou 5, 6.
Cinq, parce que le premier a été réédité en un volume.
Oui. Et puis il y a la suite, mais en continuant en petit comics de 35 pages.
Ok.
On a arrêté les publications en gros livres.
Et ça sortira quand ?
Ça sortira. Ça sort pas vraiment, c'est tiré à 200 exemplaires, c'est pas diffusé ou distribué.
On est revenu à la micro-édition, ouais, à auto-édition.
D'accord.
Parce qu'on a eu une bourse du CNL qui nous permet de vivre. Comme on l'entend. Et on n'a pas besoin de sortir les livres pour gagner notre vie. Donc on s'est décidé pendant 1 ou 2 ans, on a voulu reprendre un récit frais sans véritablement de...
Enfin, on voulait arrêter avec Fleu Bleu, ce qu'on a fait. Et on pensait du coup s'auto-éditer. Puis on a rencontré David Turgeon. Et puis finalement, ça sort chez Colosse.
On l'a rencontré pendant Périscopage. Pendant un mois, il était vraiment parmi nous à dessiner. Et au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne reprendrait pas Jérôme et Colosse pourrait le publier. Et c'est une espèce de retour aux sources et une forme de simplicité dans les rapports.
Et même s'il n'y a que 200 exemplaires, alors du coup, ce sera disponible quand même
À l'atelier Nord-Est.
D'accord.
C'est moi.
Et puis à Angoulême, évidemment, et puis à Alphagraph, chez Philippe le Libraire.
Ouais, ok, bah voilà, mais c'est important de le signaler quand même pour les gens qui vous suivent et qui. Voilà,
je
qui
pense qu'à un moment donné,
on s'attaquera au dépôt quand on aura un peu de temps, mais ouais. Ça sera jamais.
C'est pas la priorité. On va en faire un second pour Angoulême, et puis un autre après qui est déjà prévu.
Très bien.
Et peut-être que, pour être plus sérieux, on en fera un livre, mais en fait, l'idée c'était de revenir à une écriture. Ouais. Et
quelque chose d'un peu plus libre, un peu.
Voilà. Mais on aura sans doute le temps d'en faire un livre et de le diffuser correctement dans 2 ans. Mais on fait comme si on est dans l'été.
Non, mais c'est important pour les gens, voilà, qui veulent suivre et qui veulent.
Ah oui,
voilà,
oui.
C'est
oui.
Important de dire où est-ce qu'ils peuvent se le procurer éventuellement, donc via le Colosse ou via une série libraire que vous avez citée. C'est important de savoir ça, même s'il n'y a que 200 exemplaires et que c'est. Édité avec le Colosse.
Mais ce qui est compliqué, c'est que si on dit il y a juste 200 exemplaires, ça pourrait faire penser qu'on fait une rareté ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que c'est ambigu de communiquer là-dessus. Je sais pas.
Surtout que les Rennais, en termes de communication,
il y a un site Judith et Marinette.
Qui est très pauvre. C'est juste une page avec les couleurs.
Il y a 2 pages maintenant.
Ah, il y a 2 pages maintenant.
Judith et Marinette,
non, mais Joanne a raison. Enfin, c'est n'importe quoi.
T'as un blog avec plein de superbes dessins, mais c'est pas bavard du tout.
Donc non, mais c'est totalement volontaire.
Non, mais c'est une manière d'être.
Oui, complètement. Mais là, c'est vraiment presque une philosophie. C'est-à-dire que je mets jamais de photos, je fais jamais de publicité pour les expositions, pour les sorties de bouquins ou pour les articles. C'est juste un endroit de liberté en noir et blanc. Et j'ai même diminué énormément les liens, il n'y en a plus que 4. Et ça ne concerne que des gens avec qui j'ai un rapport fort, mais qui ne sont pas dans la bande dessinée. Et
Simple Website.
Voilà, et c'est, bon, c'est tout en bas en plus les liens.
Pour ceux qui viennent au vernissage demain, sachez que... que Nilso et Marisor seront là, mais qu'ils seront déguisés et qu'en fait, Nilso et Marisor, ce sera vraisemblablement d'autres personnes en fait à qui vous parlerez, dire ah oh oui c'est moi Nilso et tout ça.
Non donc, voilà ça y est.
Judith Forest sera là aussi.
Ouais, Judith Forest sera là aussi.
Ouais tu veux dire que c'est une coquetterie en fait, mais non, mais ça peut passer pour ça, hein, je sais bien mais. Non, mais il y a tellement maintenant, les blogs sont intéressants. Il y a vraiment beaucoup de blogs intéressants. Mais quand j'ai commencé à en faire, il y avait vraiment j'avais vraiment envie de militer pour des blogs qui puissent ressembler aux fanzines. Quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, c'était avec le début des Rank Xerox de bonne qualité. Et je trouvais ça, l'avènement d'une nouvelle technologie, ça fait un nouveau mouvement. Et quand les blogs sont arrivés, je me suis dit, c'est la même chose. Et donc, avec Eric de La Chose, on s'était dit, on va utiliser les blogs dans le bon sens. Pas avec des milliards de commentaires... Et puis on est resté sur cette sobriété-là, quoi.
Mais c'est ça, moi je trouve que c'est tout à votre honneur aussi. Enfin, c'est frustrant pour des gens qui ont envie de suivre un peu votre boulot et qui ont même du mal à retrouver votre trace sur Internet. Et après, en même temps, voilà, c'est, enfin, la base du travail, c'est du dessin. C'est vrai que c'est...
Ouais. Suffit d'écouter Radio Grand Papier.
Mais voilà. C'est non, mais à l'opposé des auteurs qui, au moindre trait de crayon, mettent ça partout, Facebook, oui. Le blog.
Mais c'est-à-dire, c'est une autre discipline. Moi, par exemple, le blog de Boulet, par exemple, le blog de Lisa Mandel, où il y avait beaucoup plus de publicité, ils étaient dans une autre démarche. Quand il y a eu Périscopage, à Périscopage, on a décidé de parler de... On parle de tout, donc on a parlé des blogs. Je leur ai dit, invitez un des deux. Parce que c'est eux qui représentent aussi la bande dessinée en blog. Et puis, notamment, le blog de Lisa Mandel est fantastique, j'adore. Mais en même temps, quand on en a discuté, c'était l'idée de montrer que c'est un médium, un nouveau médium. Et dans ce nouveau médium, il peut y avoir le même, plus ou moins l'infini, quoi. On peut aller autant dans l'underground avec la photocopie, qu'avec du blog, qu'avec la vidéo, qu'avec le cinéma, etc. Voilà. Et nous, notre place... Enfin, de ce petit groupe qui tourne autour d'Alphagraph, c'est plutôt dans la discrétion et l'underground, effectivement.
Voilà, mais nous, on se fait un minimum passeur, mais après, on respecte évidemment vos choix. C'est la moindre des choses. On va rester à Rennes, mais on va quitter un petit peu l'interview et le dessin. Et on va passer à la musique. On revient à la musique Et on va passer à ce quiz musical pour finir l'émission dont on avait parlé. Alors Jean-François nous a sélectionné 4 morceaux, 4 groupes qui viennent de Rennes, alors de périodes un peu différentes. Hein. Et voilà, il n'y a que moi qui ai les réponses sous le nez, sauf si Vincent a regardé. Et c'est parti, tout le monde peut jouer. Premier morceau.
Ça, j'ai
So
je les ai sur le bout de la langue.
Ah.
Non, c'est le groupe le plus connu de Rennes. L'album, c'est Rue de Siam. Et c'est...
Oui, tout à fait.
Mark Itzan, oui.
Ouais.
C'est Philippe Pascal au chant.
Tout à fait. Cancer and Drugs, on écoutait. Et c'est 1982. Ça, c'est ouais. la bonne période.
Ah oui, tout à fait.
New
oui.
Wave, post-punk et tout ça. Donc, c'est une période dont toi, tu parles aussi.
Oui, complètement. C'est une grosse motivation. Ouais.
Tout à fait. Alors, je donne un mini indice. On quitte pas trop la période et on écoute le second morceau.
Toi, tu sais ce que c'est ?
Ça doit être Kirk Lava, en tout cas.
Non, c'est beaucoup plus vieux. C'est le Marsupilami, le morceau, et le groupe, c'est...
Casque sur les oreilles.
Je sais plus ce que c'est. C'est pas Ubique ou plus que ça ?
Ubique ouais. Oh là 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 là, très très fort. Ubique avec un morceau, c'est pas un Marsupilami, c'est Kaki Kuka.
Ah oui, ils ont fait le Marsupilami aussi. Voilà.
T'étais pas loin en tout cas. C'est extrait de l'album Surf en 1983.
Ouais.
Donc je disais, on n'était pas très loin. Alors,
on reconnaît le son aussi avec le saxophone.
Ouais, tout à fait.
Hyper présent.
Le saxophone qui dénote d'une certaine période. Alors on fait quand même un gros bond en avant. Et on va écouter un truc très rock. On écoutait beaucoup tout ça quand on était jeune.
C'est ça Sloy.
Et malgré tout, hein, lâché du bout des lèvres, mais il s'agit bien de Sloy, en effet. Oui, ça peut être. Mais je sais pas si c'est si facile, mais voilà. C'était bien Sloy avec Seedmen, l'album Electrolyte, 1998.
Ouais.
Tout à fait. Et alors, on termine. Le plus beau, sans doute le plus beau, enfin en tout cas pour moi. Et là, on est vraiment assez proche des années 2011. C'est parti.
Oh là.
Ça existe vraiment, c'est vraiment rené.
C'est rené ou juste breton?
Non, on n'a pas fait ça dans notre garage.
C'est rené?
C'est rené. Enfin, Jean-François nous garantit le label rené.
Elle-même.
C'est quoi? C'est des conneries genre Mat Matin ou quoi?
Alors, c'était les Ramoneurs de Menhir.
Ah oui, bah c'est un peu le même genre. Oui, je suis pas sûr que ce soit René. En tout cas, c'est pas validé.
Ah, le disque est là, le disque est là.
Il y a ça, la médiathèque de Bruxelles quand même.
Oui, bah, tout à fait.
C'est hyper connu. Hein.
Les Ramoneurs de Menhir avec Danse Quadec.
Non, mais je pense pas que ce soit René.
Danse Quadec.
Ça ressemble pas à la musique.
Installé dans le centre Bretagne.
Extrait de l'album Danse Ad Nioul. De 2007, ouais. C'est pas du wallon, c'est bien du... Bon allez, peut-être que c'était pas totalement René, si tu l'as pas trouvé, comme t'as trouvé assez facilement les 3 précédents.
Ah.
On fera une enquête plus approfondie.
Non, bon, surtout qu'en 2011, il y avait d'autres disques à passer. Mais...
Oui, bon, bon après, voilà, c'est un choix subjectif. Bon, mais voilà.
Mais peut-être aussi rare que...
Qu'est-ce qu'on aurait bien pu passer cite-nous une ou deux choses qu'on aurait bien pu passer.
Comment ça s'appelle?
C'est très post-rock à Rennes, alors faut aimer.
D'accord. Oui,
Il y a Miss 13 Bomb H, par exemple.
Ouais, en électro, mais à qui sort, oui.
C'est hyper bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Moller Play 7 qui vient de sortir.
Moller Play 7. Il y a Laetitia Sheriff.
Avec Trunks. Qui viennent de sortir aussi un disque.
Ouais, c'est hyper bien. Il y a. Oui, il y en a plein d'autres.
Ah, moi, je les ai vus en concert la semaine dernière.
C'est pas vrai, mais j'étais pas là.
C'était super bien.
Eh bien, nous discuterons de tout ça au café, car il est l'heure de nous quitter. Une fois de plus, on a largement dépassé l'horaire. Merci. Merci à Marie et à Nilso, et merci à tout le reste de l'équipe et aux gens en cabine. Merci à Alex de Motté, évidemment. Merci Alex de Motté, merci Alex de Motté.
Et puis, nous inviter depuis 2 mois, quand même. Hein.
Voilà,
venez
tout à
vendredi.
Fait. venez vendredi à l'expo chez Nord-Est 256 Chaussée de Waterloo à partir de 14h.
Le mois prochain, Franck Miller.
Non, 18h. Et Franck Miller sera là. Franck Miller sera là vendredi. Donc ce sera l'occasion de lui parler de son chef-d'œuvre. Voilà, merci beaucoup. À bientôt à tous. On se retrouve, je l'ai noté, le 23 novembre. Et on n'a pas encore d'invité, mais on va vous trouver ça.
Bah, il est trouvé.
Voilà, merci beaucoup. Au revoir.